Nous allons lire le chapitre 24, 23 versets. Chapitre 24 du premier livre de Samuel. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. » On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi, il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Saül était parti, nous l'avons vu à la fin du chapitre précédent, Il était parti précipitamment parce qu'un messager était venu lui dire « Hâte-toi de venir, les Philistins ont envahi le centre du pays, le pays d'Israël. » Et justement, à ce moment-là, Saül avait déjà encerclé David et ses gens, et David était pratiquement pris au piège, il était perdu. Et nous avons vu comment il avait imploré l'Éternel, et comment l'Éternel avait usé de ce moyen pour desserrer l'étreinte de Saül et de son armée, et pour ramener Saül à d'autres préoccupations. Mais Saül a vite fait de chasser la colonne des Philistins qui s'étaient aventurés dans le pays d'Israël, et il est repris aussitôt par son idée farouche de poursuivre David, de tuer David, et il se lance à nouveau à sa poursuite avec 3000 hommes d'élite. Lui, David, a à ce moment-là 600 hommes. 3000 hommes d'élite. C'est son combat à lui, ce roi Saül. C'est son combat. Combat injuste et impie. Ce n'est pas le combat de l'Éternel. Sa mission, c'est de protéger le peuple de Dieu contre ses ennemis. C'est de le garder, c'est de le paître, car la mission de paître incombait au roi, non pas au sacrificateur, mais au roi. Et David, n'est-ce pas, sera vu comme lui-même comme un berger. Eh bien, c'était sa mission, mais il a quitté, il est sorti de sa mission et s'est lancé dans un combat injuste et impie. On peut dire d'ailleurs que l'homme combat selon son cœur. L'homme est toujours engagé dans des actions qui ont une allure toujours de conquête, de combat par conséquent. Et l'homme combat donc selon ce qu'est son cœur. Il fait une cause juste, il soutient une cause juste, si son cœur est dans la justice, et il soutient une cause injuste, si son cœur est injuste et dans l'injustice. On peut dire que aucune cause n'est juste si elle naît de Dieu. C'est ce que la parole nous montre. Aucune cause n'est juste. Ça paraît peut-être absolu de dire cela. Nous avons déjà dit avec Jean, avec la première épître de Jean, quelque chose de très absolu aussi, à savoir qu'il n'y avait pas plusieurs catégories d'hommes, mais deux seulement. Ou bien l'on est pour Dieu, ou l'on est contre lui. Ou bien on sert Dieu, ou bien alors on sert l'ennemi de Dieu. Il n'y a pas de situation intermédiaire, situation neutre. La neutralité n'existe pas. Et de même qu'il n'y a pas de situation neutre, il n'y a pas non plus de cause neutre, ou bien la cause dans laquelle on se trouve impliqué ou engagé est juste ou bien elle est injuste. Et cela, nous le verrons dans le chapitre 16 de Jean. Chapitre 16 de l'Évangile selon Jean. C'est le Seigneur Jésus qui parle. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas le connaître et qui, par conséquent, n'exercent pas la foi, tiennent la foi en dehors d'eux, n'est-ce pas, et l'objet de la foi loin d'eux, ils voudraient peut-être être neutres, eh bien, ils n'ont connu, ne connaissent. Connaître, ça veut dire avoir relation, n'est-ce pas. Ils n'ont relation ni avec Jésus-Christ, ni avec Dieu, et ils sont dans une cause injuste. La cause du monde est partout en toutes ses parties injuste. Je vais donner un exemple, notre exemple, parce que la chose est à savoir, n'est-ce pas? Je vais donner un exemple que nous allons prendre dans l'épître de Paul aux Romains. Épître de Paul aux Romains, nous pouvons prendre déjà dans le chapitre 1er, au verset 28. Question. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, et je répète, connaître, c'est entrer dans une relation avec. Se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Bien entendu, il ne s'agit pas d'accumuler toutes ces choses dans un seul cas, dans un seul homme, mais nous pouvons dire que tous les hommes qui sont sans Dieu, qui vivent sans Dieu, même s'ils ne sont pas athées ou hostiles, tous les hommes qui vivent sans Dieu ont quelque chose de cela. Et par conséquent, ils sont engagés dans une œuvre à caractère injuste. Une œuvre injuste, nécessairement, n'est-ce pas ? Elle ne peut pas contribuer au bien. Un autre exemple dans Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement, l'endurcissement du cœur, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Voyez-vous, les rebelles à la vérité obéissent toujours à l'injustice. C'est facile, n'est-ce pas? Nous le voyons dans l'Écriture, mais ce serait facile, très facile, à démontrer dans la vie courante, dans l'existence courante, dans la société qui nous entoure. N'est pas pour la juger, n'est-ce pas, avec âpreté, pas du tout, mais il faut voir les choses. Il faut que nous nous rendions bien compte que sans Dieu, vivre sans Dieu, sans la connaissance de Dieu, c'est nécessairement avoir pris pied dans un combat qui est celui de Satan. Même si nous n'en avons qu'un petit rôle, s'il ne nous semble pas que nous soyons vraiment lancés dans la grande offensive, le grand combat contre la lumière, malgré tout, nous sommes du côté des ténèbres et nous combattons, nous agissons dans le sens de la lutte des ténèbres contre la lumière. Nous sommes donc dans une cause engagée, dans une cause injuste. Il ne peut pas en être autrement. Deux catégories d'hommes et deux causes. Uniquement cela, chers amis, et c'est une chose, n'est-ce pas, qu'il faut bien savoir. Regardez par exemple, n'est-ce pas, des parents qui se veulent bien intentionnés, mais qui repoussent l'évangile, pas de foi. On est au XXe siècle, on ne veut pas de cela, n'est-ce pas, on est avant tout rationaliste, on a une pensée rationaliste, où on est libre penseur, où on est ce qu'on veut, mais on ne veut pas de l'évangile, on ne veut pas de Dieu. Eh bien, chers amis, on ne sait pas élever ses enfants. On ne sait pas leur inculquer les principes de la véritable vie qui les conduirait à s'affermir dans la voie du bien, à préparer leur bonheur plus tard. Pas du tout, que leur dira-t-on? On dira à ces enfants, surtout ne fais pas de complexe d'infériorité, n'est-ce pas? Et puis, aie de la personnalité, etc., etc., n'est-ce pas? Vous voyez, on est toujours engagé dans la cause injuste lorsqu'on vit sans Dieu. C'est catégorique, c'est immanquable, cela. Eh bien, c'est un c'est une des réflexions, n'est-ce pas, que, à laquelle nous amène justement ce passage du combat de Saül contre David. Et je pourrais, bien sûr, j'aurais pu dans le Nouveau Testament vous trouver encore d'autres exemples, mais ces deux-là, je pense, ont suffi. Savons-nous d'ailleurs pourquoi l'histoire nous montre qu'aucune forme de gouvernement n'a pu subsister sur la terre sans aboutir au malheur des peuples? Eh bien, tout simplement parce que rien n'était fondé sur Dieu. Il y a certaines études, par exemple l'étude du droit constitutionnel, qui a une partie historique. Quand on fait du droit constitutionnel, on fait nécessairement l'histoire de ce droit constitutionnel. Et l'on voit tous les systèmes de gouvernement qui ont pu exister sur la terre. Et c'est assez caractéristique parce que on n'en trouve pas un seul, n'est-ce pas, qui n'est terminé, qui ne se soit terminé par un moyen d'oppression sur les peuples, n'est-ce pas, il a fallu en changer. Que ce soit une royauté, que ce soit une république ou n'importe quoi, n'est-ce pas, tout a toujours dévié, et nous le voyons encore de nos jours, n'est-ce pas, de nos jours, on change la constitution parce qu'on pense que c'est mieux ainsi, ça va peut-être paraître mieux pour un temps, et puis ça va continuer aussi de dévier, parce que rien n'est fondé sur Dieu, et nous voyons là que toute cause qui n'est pas celle de Dieu est une cause injuste. David et sa troupe s'étaient réfugiés dans une forteresse naturelle, les rochers des boucs sauvages, où il y avait cette fameuse caverne d'En-Gedi, qui n'était pas d'ailleurs la seule, c'était un lieu de caverne, il y avait des rochers et des cavernes. Et ce lieu se trouve placé au milieu à peu près de la rive ouest de la mer Morte. Ces rochers des boucs sauvages se trouvaient là. D'ailleurs, rocher des boucs sauvages, c'est la signification d'En-Gedi, qui est source des chèvres. Des chèvres ou des boucs, source des chèvres. Il y avait en ce lieu des vignes. Des vignes qui sont chantées dans le Cantique des Cantiques comme étant des vignes magnifiques, donnant des raisins savoureux et superbes. Il y avait en effet là des sources, et notamment des sources chaudes qui permettaient une végétation quasi tropicale. En-Gedi est donc resté dans l'écriture comme ce lieu, presque ce paradis, n'est-ce pas, un lieu verdoyant, un lieu où pousse vraiment une végétation très vive et très ardente. En-Gedi. Et c'était là que David s'était réfugié, il y avait donc des rochers, des cavernes, c'était une forteresse naturelle. Mais Saül et ses gens étaient habiles pour retrouver la trace de David. Celui-ci se trouve, au moment de ce récit du chapitre 24, se trouve terré avec ses 600 hommes au fond d'une vaste caverne. Et ce refuge ne manquait pas, bien entendu, d'être scabreux. Toutes les cavernes allaient être fouillées. Saül avait déjà réussi précédemment à encercler David, n'est-ce pas? Et là, n'est-ce pas, il était avec ses 3000 hommes d'élite, il n'allait pas laisser, bien entendu, les cavernes sans les fouiller. Et là encore, la vie de David ne tenait qu'à un fil. Dieu, ici, laisse encore son élu dans une situation parvenue à l'extrême péril. Nous en avons l'écho et nous avons aussi la pensée du cœur de David dans un psaume qui correspond à cette situation. C'est le psaume 57. Le psaume 57. Au chef des chants, ne détruit pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que la gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Voilà le beau psaume que David a composé dans cette situation. Le refuge, nous le voyons par ce psaume, le refuge ce n'est plus la caverne qui d'ailleurs est devenue un piège, car David et ses hommes sont là dans un véritable piège. Le refuge que David saisit, c'est celui qui est à l'ombre de l'Éternel. À l'ombre de tes ailes. Il saisit ce refuge. Voilà des occasions qui lui sont données d'apprendre pratiquement la confiance en Dieu. Chers amis, de telles épreuves sont en effet seules capables d'apprendre la confiance en Dieu. Ne nous étonnons pas, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament, ne nous étonnons pas, Pierre nous le dit, si nous sommes encore attristés quelquefois par diverses épreuves. Parce que l'épreuve de notre foi, ce n'est pas la nôtre, c'est l'épreuve de notre foi, est nécessaire. Cette foi si précieuse, plus précieuse que l'or véritable, pour prix de notre foi, nous obtiendrons le séjour éternel. Alors, notre foi est mise à l'épreuve, et notre foi va se traduire en amour. Vous voyez, il y a toujours l'amour. Elle va se traduire en confiance. La confiance, on pourrait dire que c'est la foi qui s'appuie sur l'Éternel. Quand la foi prend appui sur l'Éternel, prend protection sous ses ailes, n'est-ce pas ? Eh bien, la foi s'appelle confiance, elle devient confiante. Il y a, bien entendu, une corrélation très étroite entre la foi et la confiance. Eh bien, ça s'apprend pratiquement. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas, de le lire dans l'Écriture. Il faut l'apprendre. Et Dieu, quand il nous donne des épreuves, eh bien, c'est pour que nous apprenions cette confiance. La foi, notamment, n'est-ce pas, se traduisant en confiance, sachant prendre appui sur le Seigneur, ne pas craindre la situation bouchée, n'est-ce pas, la situation au sein de laquelle on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire, il n'y a plus qu'à attendre, mais on ne va pas attendre passivement le malheur, n'est-ce pas. On a confiance, on crie à l'Éternel et la délivrance arrive. C'est là que la délivrance arrive. Le Seigneur aime à amener la délivrance au tout dernier moment. Nous l'avons déjà vu dans le chapitre 23, n'est-ce pas ? David est encerclé et la délivrance vient au dernier moment. Ici, c'est encore la même chose. Il est dans cette caverne et il est retrouvé par Saül. Et Dieu délivre David d'une façon alors tout à fait inattendue. Car on pouvait attendre précédemment, n'est-ce pas, c'est un messager qui vient avertir Saül, dépêche-toi, viens vite, les Philistins sont là. Alors, Saül est obligé de desserrer l'étreinte et de s'en aller. Ici, c'est tout différent, ce qui nous montre que la manière de Dieu, n'est-ce pas, est infiniment variée. Alors, ne nous amusons pas à dire, Seigneur, délivre-moi, fais ceci, fais cela. Laissez donc le Seigneur faire lui-même, n'est-ce pas ? Il va nous délivrer, venir à notre secours, d'une manière à laquelle nous ne pensons pas. Il est évident que David ne pensait pas du tout que Saül aurait un pressant besoin. Et c'est un besoin naturel qui pousse Saül en avant de sa troupe, n'est-ce pas ? Il se distance de sa troupe, Et au lieu, n'est-ce pas, d'envoyer ces gens fouiller la caverne, cette caverne d'En Gedi, eh bien, lui, il s'y rend parce qu'il a un besoin naturel, se couvrir les pieds, c'est cela. Il entra pour se couvrir les pieds, pour satisfaire un besoin naturel. Et naturellement, bien naturellement, il y va tout seul. C'est tout, tout indiqué. Alors, il va là, n'est-ce pas, pour satisfaire ce besoin naturel, et les gens de David sont là, dans le fond de la caverne. 600 hommes, elle était grande, n'est-ce pas, mais alors, ils étaient dans la nuit, dans l'obscurité, et ils voient là, par l'ouverture, un homme entrer, c'est Saül, n'est-ce pas. Alors, bien entendu, les gens de David voient là une circonstance voulue de Dieu, et il est vrai que l'Éternel met Saül à la discrétion de David, même de l'épée de David. Il est vrai, ça c'est vrai, n'est-ce pas? C'est bien l'Éternel qui a voulu cela. Saül le reconnaîtra lui-même, d'ailleurs, mais attention. C'est bien l'Éternel, en effet, qui expose là Saül, n'est-ce pas, à l'épée de David. David n'a qu'à faire, oh, c'est tellement simple, n'est-ce pas? Il vient, d'ailleurs, il va venir, n'est-ce pas, sans faire aucun bruit. Il aurait pu lever cette épée, l'épée de Goliath, n'est-ce pas, qu'il avait encore, n'est-ce pas, et puis la battre sur Saül, et c'en était fini de ce roi. N'est-ce pas, c'en était fini de ce persécuteur, de cet ennemi. Mais attention, l'Éternel a bien fait cela, mais c'est encore une épreuve pour David. Certes, l'Éternel va, par ce moyen, un moyen tout à fait inattendu, je le dis, n'est-ce pas, délivrer David. Il va le délivrer. Mais non sans placer dans cette circonstance une nouvelle épreuve d'un genre nouveau. En effet, David va-t-il se ruer sur Saül et le tuer comme cela lui est si facile et comme ces gens le lui disent, n'est-ce pas? Oh, mais là, tu vois bien, l'Éternel met Saül à ta disposition, n'est-ce pas? Il te le livre, tu n'as qu'à abattre ton épée, et ça y est, n'est-ce pas? Tu es délivré de cet ennemi. Ça, vraiment, l'occasion est magnifique, l'occasion est belle. Mais, si David fait cela, certes, il fera tomber un impie, il fera tomber sur cet impie qu'est Saül, et nous avons vu que Saül avait tué 85 sacrificateurs de l'Éternel portant les fautes, qu'il avait anéanti la ville de Nod aussi, n'est-ce pas, femmes, enfants, etc., parce que c'était la ville du sanctuaire, n'est-ce pas. Donc il avait fait des choses déjà horribles, abominables, et par conséquent, c'était un juste châtiment qui serait tombé sur un véritable impie. Mais attention, en ce cas, si David fait cela, tue Saül, sera-t-il l'homme selon le cœur de Dieu? Voilà la question qui se pose. N'oublions pas que Dieu a dit qu'il voulait un homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés. Est-ce que David, dans ce cas, serait l'homme selon le cœur de Dieu? David se montrera-t-il apte en cette occasion délicate, où il y a même une forte tentation, se montrera-t-il apte à discerner la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée du cœur de Dieu, selon son cœur, selon le cœur de Dieu? Est-ce qu'il va connaître la pensée du cœur de Dieu et la suivre? Attention, David, ce n'est plus le danger qui pèse sur ta vie, qui est maintenant l'épreuve. Parce que tu peux sortir de deux manières de cette situation. Tu peux tuer Saül, bien. Et puis, tu peux alors faire une autre chose, lui épargner sa vie, et puis faire ce qu'il a fait, n'est-ce pas, ensuite, vraiment décontenancer Saül en lui montrant que tu as épargné sa vie. De tout sens, tu vas sortir de cette impasse, tu vas en sortir. Ta vie va être donc délivrée dans cette circonstance. Mais attention à toi, l'épreuve n'est plus pour ta vie, l'épreuve c'est pour ton cœur. C'est une épreuve maintenant pour ton cœur. À quelle pensée vas-tu céder? Vas-tu écouter la voix de tes hommes qui jugent, eux, la situation selon les apparences? vas-tu obéir à cela? Vas-tu en somme prendre la raison de la chair pour toi? Vas-tu céder à la raison de la chair? Ou vas-tu au contraire te laisser guider par la pensée de Dieu? Vous voyez comme la chose était infiniment délicate, une épreuve pour le cœur de David. Et, chers amis, c'est bien cela que Dieu voudrait pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants aujourd'hui, c'est qu'il puisse supputer spirituellement la pensée du cœur de Dieu. Je redis souvent, je suis évidemment, n'est-ce pas, l'homme à redites, mais c'est inévitable et c'est même nécessaire, nous l'avons dit. Voyez-vous, n'est-ce pas, nous sommes portés souvent à prendre notre Bible puis à dire, tiens, est-ce que ceci est permis? Est-ce que ceci est défendu? Y a-t-il un verset qui correspond à telle ou telle situation, à telle chose qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire? Mais qu'est-ce que c'est que ça, chers amis? Mais ça n'a jamais été ça! Nous l'avons montré, c'est pas ainsi que le Seigneur peut nous conduire aujourd'hui. La Bible ne nous est pas proposée comme un code avec des préceptes, des règles. La Bible, c'est une révélation. C'est une prophétie. C'est une pensée. C'est une pensée. C'est la pensée de Christ. La parole de Christ, c'est la pensée de Christ. Et c'est à cette pensée qu'il faut se référer. C'est à elle qu'il faut monter, aller par la foi. C'est elle qu'il faut rejoindre, je dirais presque, humer la pensée de Christ. Où est-elle la pensée de Christ? Là, n'est-ce pas? Certes, il faut la connaissance de l'Écriture. Il faut la connaissance de la parole. Mais quand on a bien compris comment le peuple d'Israël avait pu autrefois se méprendre sur la loi de Moïse, et pour cela nous avons, n'est-ce pas, la parole de Jésus qui nous le montre, combien il s'était mépris, tragiquement mépris, alors nous, disons-nous, attention de ne pas faire comme eux, de ne pas nous méprendre, de ne pas, n'est-ce pas, regarder le texte, le sens littéral uniquement, n'est-ce pas, de rester sur un mode littéral, sur une expression uniquement littérale de notre Bible, mais de remonter à la pensée de Christ, à la pensée de Dieu. Et David, qui est justement cet homme dans lequel cette disposition à connaître la pensée de Dieu, à, je dirais, le véritable mot, c'est ça, à supputer, à discerner la pensée de Dieu, par voie spirituelle, n'est-ce pas, pas autrement, eh bien, David se lève. Et au lieu d'abattre son épée sur celui qui est là comme une victime qui lui est offerte, toute préparée, il va venir et couper doucement le pan du manteau de Saül et puis se retirer aussi discrètement qu'il est venu, de telle manière que Saül ne s'en rend pas compte. Saül ne se rend pas compte que quelqu'un est venu couper le pan de son manteau. Mais aussitôt que David eut fait cela, le cœur lui battit. Sentit son cœur battre. Son cœur bat parce que ce qu'il vient de faire, c'est déjà une atteinte à la personne du roi, en qui il voit toujours loin de l'Éternel. Et cela, il a raison, n'est-ce pas? Saül est rejeté. David aurait pu très bien raisonner. Il est rejeté. C'est plus lui qui doit régner. Dieu ne peut plus de lui comme roi et comme conducteur de son peuple. Et lui, il a été oint par Samuel. Eh bien, cependant, il va persister à voir en Saül loin de l'Éternel. L'Éternel l'a oint. C'est une marque ineffaçable. Et chers amis, si nous laissons un peu notre pensée aller à d'autres objets dans l'Écriture, nous verrons qu'il en est ainsi pour les créatures, les hautes créatures de Dieu qui sont appelées les gloires. Et les gloires, ça n'est autre que Satan et les dominations qui sont avec lui, n'est-ce pas ? Dans les lieux élevés, ils sont avec lui. ce sont des esprits méchants, ce sont des démons, mais Satan a été loin de l'Éternel. Il est loin de l'Éternel. Et il nous a dit de ne pas injurier les gloires. Et nous n'avons pas, nous, à porter atteinte à Satan. L'ange de l'Éternel lui dit, quand il accuse Josué, le souverain sacrificateur, que l'Éternel te réprime, Satan. C'est l'Éternel qui va te réprimer. Mais attention, on ne jurie pas les gloires. On ne touche pas aux gloires. Nous savons que Satan est condamné. Sa condamnation est assurée. Et avec lui, n'est-ce pas, tous ceux qui l'ont suivi. Mais attention, ce n'est pas à nous de porter la main sur les gloires. Eh bien, c'est quelque chose d'équivalent. Et ça peut, évidemment, cette pensée-là doit trouver sa traduction dans l'Église aujourd'hui, dans le comportement des membres de l'Église, à l'égard d'ailleurs d'un quelconque autre membre de l'Église, parce que tout membre de l'Église est un oint de l'Éternel, n'est-ce pas ? L'onction vous enseigne, l'onction est pour tous. Tout membre de l'Église est un oint de l'Éternel, ne l'oublions pas. C'est pas seulement celui qui dispose du ministère, n'est-ce pas ? Ministère, c'est une fonction, pour laquelle il y a des dons particuliers, c'est bien, mais attention, c'est tout membre de l'Église. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus a pu dire, Jean-Baptiste, il n'est pas paru parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste sur la terre. Il n'en a pas eu de plus grand. Même la Vierge Marie, sa mère, n'est pas plus grande. Elle est née de femme aussi, mais elle n'est pas plus grand. Jean-Baptiste sur la terre est le plus grand. Mais cependant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Nous oublions souvent ça. Il est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, celui qui a reçu la visitation de la grâce de Jésus-Christ en lui, reçu le pardon de ses péchés, trouver la vie nouvelle dans ce pouvoir que la parole de Dieu lui a apporté, celui-là a reçu aussi l'onction, bien sûr, et tout membre d'Église devrait d'ailleurs être entièrement baptisé du Saint-Esprit, je veux dire entièrement avoir reçu, n'est-ce pas, la pleine onction que nous appelons le baptême du Saint-Esprit, eh bien tout membre de l'Église est un oint de l'Éternel. Un oint de l'Éternel. Alors, voyez quelle application, n'est-ce pas, nous avons à faire de ces choses. Alors, le cœur lui bat. Il voit, bien entendu, déjà dans ce geste qu'il a fait, un commencement d'atteinte à la personne de loin de l'Éternel. Elle est petite, elle est innocente, cette atteinte. Elle est même utile, elle va être utile. Mais il a usé de l'épée sur le vêtement du roi, et c'est beaucoup. Et cela est très intéressant. Voyez-vous, c'est une mention très intéressante. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Son cœur est d'une sensibilité, une très grande sensibilité, une sensibilité spirituelle, sensibilité de l'esprit. Ce n'est pas une sensibilité du psychisme. Ce n'est pas au niveau de l'âme, c'est au niveau de l'esprit. Une sensibilité très délicate. La crainte de l'Éternel est dans le personnage de David, elle est à fleur de peau. Il a une crainte de l'Éternel, à fleur de peau. Et c'est là une de ses dispositions de cœur merveilleuses, absolument merveilleuses. Avoir cette crainte de l'Éternel, c'est-à-dire ici cette crainte de déplaire, d'offenser l'Éternel, d'être en désaccord avec la pensée du cœur de l'Éternel. Être en désaccord avec la pensée qui est dans le cœur de l'Éternel. Ah, ça, il le craint. Déjà, le mouvement de son épée, le cœur lui bat. Il a une grande sensibilité. Chers amis, mais c'est merveilleux, cela. Et c'est peut-être cela que nous avons à demander aussi, nous, à l'Éternel. Nous n'avons pas assez cette crainte de l'Éternel. Je vous le dis, n'avons pas assez dans nos allures de légèreté, de désinvolture. De désinvolture. Souvent, nous sommes désinvoltes, chers amis, quand nous entrons dans une salle C'est une salle qui est une maison de prière. J'ai vu à Rouen quelque chose qui m'a infiniment plu. Quand je suis arrivé à Rouen, première réunion que j'ai faite dans l'une des salles de Rouen, il y en a plusieurs, il y a 10 lieux de culte là-bas. Eh bien, je vois, on avait changé l'inscription sur la porte, la grande porte, et on avait mis « maison de prière ». Ça m'a enchanté. Ça m'a enchanté de voir ça. Et j'ai vu ça encore dans une autre annexe, on avait mis sur la plaque une maison de prière. C'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'on devrait appeler nos salles, des maisons de prière. Eh bien, chers amis, entrer dans une maison de prière et puis être désinvolte, comme dans la rue, ce sont des détails. C'est un défaut de sensibilité. De sensibilité du côté de la crainte de l'Éternel, c'est un défaut de sensibilité, chers amis, je ne peux pas vous dire autrement. C'est un défaut. Nous risquons de choquer d'ailleurs des jeunes âmes. Nous risquons de les choquer. Vous direz, je suis peut-être exigeant trop. Non, pas du tout. Pas du tout. La sensibilité d'un David, n'est-ce pas, du côté de la crainte de l'Éternel, peur d'être en désaccord avec la pensée de l'Éternel, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une de ces dispositions de cœur donc merveilleuses. Et nous devrions avoir, nous, cette sensibilité attachée au sentiment du respect de la parole et des actes de Dieu. Respect de la parole et des actes de Dieu. Il y a notamment dans le cours de nos cultes, il y a, n'est-ce pas, le sacrifice rémémoré, rappelé, la Sainte Cène. Eh bien, chers amis, plus d'une fois, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir quelqu'un se déranger comme ça, parler à un autre, pendant qu'on était en train de prendre le repas du Seigneur. Moi, ça me choque. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, pas du tout, oh non, c'est pas ça. Mais je comprends, n'est-ce pas, cette crainte de l'Éternel, cette sensibilité-là d'offenser Dieu. Dans les actes de Dieu sont quelque chose de grand. C'est un acte de Dieu, la Sainte Cène. C'est Dieu qui l'a prescrit. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pas un acte de Dieu, ça, mais oui, c'est un acte de Dieu. Que l'Éternel me garde, dit David, de commettre une telle action, porter la main sur loin de l'Éternel. Et lorsque Saül fut sorti de cette caverne et se fut éloigné quelque peu, alors là, David lui-même en sort, et puis de loin, il l'appelle, et il lui tient le langage d'un homme qui est soumis à Dieu, et qui connaît déjà l'amour de Dieu. Il détient, il a dans la main le pan du manteau. Il détient une preuve irréfutable. Il a bien épargné volontairement la vie de Saül, parce qu'il est loin de l'Éternel. Comment donc peut-on l'accuser de méchanceté ou de révolte contre le roi? L'Éternel avait bien livré, avons-nous dit, Saül à la discrétion de David. Mais David n'a pas tué. Son cœur ne le pouvait pas. Rien que le manteau, son cœur battait. Il ne le pouvait pas. Son cœur se refusait à une telle action. Et chers amis, c'est ça qui nous maintiendra dans la vérité, dans la sainteté, dans la pratique des commandements du Seigneur. Que notre cœur se refuse. Notre cœur se refuse à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Vous voyez comme cette sensibilité, n'est-ce pas, crainte de l'Éternel, est utile et magnifique. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, mais elle est enseignée dans le Nouveau Testament encore. Eh bien, voilà une épreuve gagnée par David, bien supportée, une de ces épreuves qui fait grandir l'âme devant Dieu et qui prépare aux tâches les plus hautes. David va être préparé à des tâches très hautes, nous le verrons, des tâches très hautes. Et il faut que, déjà jeune, il est dans la jeunesse, il se prépare à cela. Il faut qu'il ait des occasions de manifester la crainte de l'Éternel, cette sensibilité, des occasions même, n'est-ce pas, les occasions qui vont, n'est-ce pas, jusqu'à mettre sa vie en question, en balance. Eh bien, David a réussi dans cette belle épreuve. Il saura donner la mort quand il le faudra. Ce n'est pas une sensibilité, une sensiblerie humaine. Il saura donner la mort quand il le faudra. Par exemple, quand il y aura ce messager qui viendra lui dire, n'est-ce pas, qu'il a exécuter Saül, n'est-ce pas? Eh bien, il lui dira, ta parole, alors, n'est-ce pas, plaide contre toi, mettez-le à mort. Il a touché, il a porté la main sur loin de l'Éternel. Mettez-le à mort. Eh bien, il saura donc donner la mort quand il le faudra, quand l'amour de Dieu aura été méconnu. Quand le respect de Dieu et l'amour de Dieu auront été méconnus, là, il donnera la mort. Mais non contre son propre persécuteur, qui est un oint de l'Éternel. Lui, son persécuteur, il n'y touche pas. Il se refuse à y toucher. Dieu, à Dieu seul appartient la vengeance et la justice, et il dira à Saül, l'Éternel sera juge entre moi et toi. Et puis, nous avons vu, du verset 17 au verset 22, la réponse du roi Saül. Saül répond à David, et lui aussi il est sensible. Oh, il est très sensible aussi. Il est sensible, il pleure. Il pleure, n'est-ce pas? Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix à mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Oh, comme c'est touchant. Il se met à pleurer, lui aussi. Il est ému, vraiment, n'est-ce pas, de voir qu'on l'a épargné. Il sent encore un peu, n'est-ce pas, le froid de l'épée dans le dos, mais il n'a pas éprouvé le fil de cette épée. Alors, il est ému à larmes, et il fait amende honorable, entièrement amende honorable. Tu es plus juste que moi, et tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui ta bonté, la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Il fait donc amende honorable, il s'accuse même, il se reconnaît coupable, mais David au-dessus de lui, tu es plus juste que moi. Mais David au-dessus de lui. Il reconnaît même que la royauté d'Israël reviendra à David au verset 21, maintenant je sais. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Alors, est-ce là une repentance que l'on puisse agréer, de laquelle on puisse se réjouir? Est-ce là un revirement, un retour salutaire? Enfin, l'ennemi a compris. Enfin, tout de même, il a ouvert son cœur, attendri son cœur. Et c'est fini, il ne va plus poursuivre David. Eh bien, non, non, c'est un moment qui passe, mais ça n'a rien de solide, absolument rien. Saül aura vite fait de se reprendre et de revenir à son entière méchanceté. Pourquoi cela? Mes chers amis, parce que ce qu'il vient de dire là, il vient de le dire sous le coup d'une émotion de la chair. C'est sa chair qui est émue. Et cela nous amène, n'est-ce pas, à dire ceci, il y a dans notre autour de nous beaucoup de gens qui sont capables de s'émouvoir. On dit qu'ils sont sensibles. Oh, comme il est sensible, celui-là, n'est-ce pas, ou celle-là, sensible. Mais il s'agit d'une sensibilité de la chair, une sensibilité psychique, au niveau de l'âme, et non pas au niveau de l'esprit. Vous avez des gens, quand ils voient un spectacle éprouvant, n'est-ce pas, même quelquefois le malheur, un malheur qu'ils font sur certains, mais ils sont capables de pleurer aussi, n'est-ce pas? Il leur suffit même d'aller peut-être au théâtre et de voir un drame, n'est-ce pas, avec un déroulement qui soit tragique, n'est-ce pas? Et puis alors, ils vont pleurer, et puis le lendemain matin, ils seront tout aussi durs qu'ils l'étaient auparavant. Rien ne sera changé en eux, absolument rien du tout. N'est-ce pas? Sachons bien faire cette distinction entre une sensibilité de la chair qui ne mène à rien, qui n'est qu'un moment fugitif et qui est même, disons, des pleurs de crocodile, n'est-ce pas? Ça ne mène à rien avec la sensibilité spirituelle que nous avons trouvée chez David. C'est tout différent, n'est-ce pas? Voyez comme il ne faut pas confondre l'une et l'autre. La chair ne peut jamais se repentir. Dieu ne demande rien à la chair. Absolument rien. Il est même écrit que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Elle ne le peut pas. Et il ne faut même pas qu'elle puisse, n'est-ce pas, faire la volonté de Dieu, car il faut que la volonté de Dieu soit faite par l'esprit qui est dans l'homme, que Dieu met dans l'homme. C'est l'esprit introduit dans le cœur de l'homme, c'est l'esprit qui va accomplir la volonté de Dieu. Et vous savez qu'il y a un cas que nous cite l'Écriture d'un repentir qui fut sans effet. Et dans le chapitre 12 des Hébreux, un repentir sans effet, sans aucun effet. Ce repentir sans effet, eh bien, c'est celui d'Ésaü, qui voulut, n'est-ce pas, rattraper son droit d'aînesse, peut-être, tout au moins, n'est-ce pas, la bénédiction de son père. Il voulut rattraper la bénédiction de son père, mais il était trop tard. Il était trop tard. Son repentir n'eut aucun effet. C'était un repentir de la chair. Et Saül de dire aussi à David ceci, « Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. » Non, le Seigneur ne récompense pas ses serviteurs pour ce qu'ils font de bien en telle ou telle occasion au cours de leur séjour sur la terre. Le Seigneur nous l'a dit dans les termes que voici, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Par conséquent, n'est-ce pas, ne croyons pas que Dieu ça procéderait d'un mode éducatif que Dieu n'a pas parce qu'il n'est pas bon. De nous donner des récompenses sur la terre, n'est-ce pas, la chair s'en emparerait aussitôt de ces récompenses-là, n'est-ce pas ? Ah, le Seigneur, mon Dieu, m'a félicité. Ah, il m'a encouragé par des paroles qui sont pour moi, n'est-ce pas, qui m'ont ému, etc., n'est-ce pas ? Il m'a récompensé. Eh bien, ce serait précisément arrêter la marche des enfants de Dieu. Dieu enregistrera seulement ce que nous faisons. Il y aura un trésor qui se constituera dans les cieux. Et quand le moment sera venu de prendre à lui les siens, alors là, il récompensera. Dans les cieux, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous, à cause de mon nom, toutes sortes de mauvaises choses, et qu'on vous persécutera, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux, n'est-ce pas ? La récompense sera dans les cieux quand nous aurons terminé le combat de la foi ici-bas. Ici-bas, le disciple doit apprendre à faire ce que la parole ordonne, il doit apprendre à le faire par la foi et par amour, sans attendre de récompense immédiate. Et nous l'avons vu ici, l'année dernière, je crois, il me semble que c'est l'année dernière, notamment pour le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie qui a vraiment accompli tout ce que Dieu lui avait dit d'accomplir, et puis il l'a tellement bien accompli qu'il s'est attiré toutes sortes de persécutions, n'est-ce pas, et dans sa propre famille même, on a fomenté un complot contre sa vie, alors il est là, découragé, et alors il gémit, il va même jusqu'à dire, que maudit soit le jour où j'ai vu le jour, où ma mère m'a mis au jour, n'est-ce pas ? Eh bien, Dieu ne va pas lui dire, eh bien, Jérémie, ça va, je suis content de toi, allons, voyons. Non. Vous savez ce que Dieu lui dit ? Jérémie, lève-toi et va-t'en faire ceci. Tiens, j'ai encore quelque chose à te donner maintenant, va vite le faire. Ben, voilà comment le Seigneur va faire. Si nous sommes un petit peu, n'est-ce pas, découragés, le Seigneur va nous dire, tiens, regarde, il y a une œuvre à faire. Vite, va de ce côté-là, il y a une âme à sauver. Il y a quelque chose à faire pour moi. Ben, c'est ça, n'est-ce pas, que le Seigneur va nous donner. C'est comme ça. Et cela, selon sa grande sagesse, évidemment. Et puis, pour terminer notre chapitre, nous voyons Saül demander à David un serment. par cette demande d'un serment, Saül se montre soucieux de lui, de sa famille, mais aucunement préoccupé du royaume de Dieu, du royaume que Dieu lui a confié. Et comme c'est triste d'être préoccupé de soi-même, bien avant l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre de Dieu qui est en premier, qui a priorité, c'est nous, nos propres intérêts. Oh, chers amis, ça, c'est ça. Oh, c'est à renverser entièrement, ça. L'œuvre de Dieu. Poursuivre l'œuvre de Dieu avec zèle, c'est ça qui importe. Nous-mêmes, notre personne, mais le Seigneur a dit qu'il prendrait soin de nous. Si Saül était dans la vérité, il n'aurait pas besoin de se soucier de son nom et de sa famille. Il n'aurait pas besoin de se préoccuper de ça. Parce que Dieu prendrait soin de son nom. Dieu a toujours pris soin, quand un serviteur l'a bien servi, n'est-ce pas, de son nom, de sa famille, même de son inhumation, n'est-ce pas. Voyez-vous, n'a pas besoin de se soucier de ça. Mais Saül est un homme qui a la conscience tourmentée, ravagée par le mal, par la jalousie haineuse, et il est préoccupé de lui, bien entendu. David, après cela, aura un peu de relâche, mais son temps d'épreuve n'est pas encore terminé, c'est pas suffisant, le Seigneur Dieu lui réserve encore d'autres circonstances que nous verrons par la suite. Amen.